Bienvenue dans le Macané Plus, qui vous apporte le meilleur de la vaste archive pédagogique de l'évangéliste guérisseur, auteur à succès et pasteur de la méga-église, Dag Uwamiers.
Bien, tournez vos Bibles, regardons Psaume 23. Je suis en train de partager avec vous sur le thème « Je ne manquerai de rien ». Amen. Psaume numéro 23. Qui connaît bien Psaume 23 par cœur? Ok. Ok, maintenant il faut noter quelque chose en Psaume 84. Vous avez déjà vu Psaume 23? Faut pas fermer ça, mais sautons, regardons quelque chose en Psaume 84, verset 10. 84, verset 10, la Bible dit:
Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed.
Il dit: Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Verset 11 dit: Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'Éternel est quoi? L'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier, et il donnera quoi? La grâce et la gloire. Amen. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Bien, la Bible est très claire sur ça, que Dieu est un Dieu qui est très bon. Dieu n'est pas ton ennemi. Alléluia. Dieu ne combat pas contre toi. Dieu ne garde pas des choses de quelqu'un. Dieu n'essaie pas de te refuser des choses. Dieu ne garde pas, ne refuse pas des bonnes choses de toi. Il est, la Bible dit, le soleil est un bouclier. Autrement dit, Dieu est quelqu'un qui protège, il aide, il bénit. Et il est en même fois, il est le soleil, il est le bouclier, il est tout. La Bible dit, il est le soleil en même temps, il donne aussi il est bouclé. Si tu as besoin du soleil, il sera ton soleil. Et quand tu auras besoin aussi de la protection du soleil, il sera un bouclier qui est content d'avoir Dieu à son côté. Il donne la grâce et la gloire. La grâce veut dire l'aide qu'on n'en mérite pas. Qui sait qu'on a besoin de cette grâce-là? C'est seulement 4 personnes. Mais je veux que vous sachiez que nous ne méritons rien de Dieu. Nous méritons allons à l'enfer. Nous tous, moi aussi, ça c'est la place qui nous doit. Notre existence sur cette terre-là, l'endroit qui nous est droit, c'est l'enfer. Donc si on va aller au ciel, on va aller au ciel pas à cause de nos œuvres, parce que nos œuvres sont comme des saletés. Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, nous ne serons pas acceptés du tout, même pas pour une minute. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme nous sommes. Alléluia. Donc, Dieu est un soleil et les boucliers, la Bible dit, il donne la grâce. Ça veut dire l'aide non méritée et la gloire. La gloire, c'est la beauté. Je vois ta vie devenir belle. Je vois ta vie devenir merveilleuse. Dieu donnera la grâce et la gloire. C'est Dieu qui va te rendre belle. C'est Dieu qui va rendre ta vie glorieuse. Et la dernière chose, il dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans le péché, n'est-ce pas? Qui marchent où? Dans l'intégrité. Donc, encore une fois, nous voyons qu'il y a des conditions sur ce que Dieu veut faire. OK? Donc, sautons maintenant, allons en Psaume 23. On commence à partir de verset 1. L'Éternel est mon berger et je serai quoi? L'Éternel est mon berger, je n'aurai pas besoin de voiture, je n'aurai pas besoin de mari. Je n'aurai pas besoin d'une épouse. C'est comme il est également difficile de trouver une femme et en même fois aussi un mari. Ceux qui n'ont pas des épouses, à un point, ça devient difficile pour qu'ils trouvent les épouses. Donc, il faut prier pour tous les gens qui ne sont pas encore mariés afin que Dieu ouvre les portes et qu'ils reçoivent des épouses. Je vois Dieu bénir ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés disent Amen. D'accord. Il faut continuer de faire semblant. Semblant, hein? Verset 2. Il me fait reposer dans de marrons pâturages, de dangereux pâturages. La Bible dit de verts pâturages. Dieu nous donne des verts pâturages. Hein? Il me fait reposer. Nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit la première place où l'Éternel nous amène, c'est les verts pâturages. Ça veut dire sa parole. Si tu es une brebis, tu dois savoir que ta nourriture, ce sont des verts pâturages. Et tu dois désirer des verts pâturages. Donc, la première chose dont vous avez besoin dans votre vie, c'est du verts pâturage. La parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Même si tu es béni, tu ne peux pas profiter de la bénédiction. J'ai un petit livre qui parle des riches et des gens qui ont réussi dans la vie, comment leur vie était, comment ils ont fini dans la vie, comment ils étaient mécontents. Vous voyez, le bonheur ne se trouve pas dans la réussite en tant que telle. Ou bien, si tu arrives à accomplir beaucoup de choses pour avoir beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui contribuent au bonheur. Beaucoup de choses. Donc, je peux lire une liste. J'ai un livre sur ça. Vous voyez? Et ça parle de leurs expériences, ce qui s'est passé dans leur vie. Et ces riches, et soi-disant, et les gens qui ont réussi, ils sont les rêves de beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut pour être content. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents, bien qu'ils ont de l'argent. Il faut aller à East Legon. Il faut aller au quartier résidentiel de l'aéroport. Beaucoup de maisons avec des belles voitures, mais la plupart d'entre eux ne sont pas contents. La plupart d'entre eux, ils ont beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes. Vous voyez? Il faut plus que l'argent. C'est pourquoi la Bible dit en Luc chapitre 12, verset 15, la Bible dit, la vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance des choses qu'il possède. Ta vie ne consiste pas aux choses que vous avez. Les choses que vous avez en tant que telles ne vont pas te rendre content. Je connais des endroits où les gens commettent de la suicide partout, tout le temps, bien qu'ils ont tout. Donc, juste avoir des choses ne va pas te rendre content. Une fois, j'ai prêché dans une autre église à l'étranger et j'ai demandé, vous avez des télévisions? Ils ont dit oui. Vous avez des vidéos? Ils ont dit oui. Vous avez des systèmes sonores? Ils ont dit oui. Vous avez quoi encore? De la radio? Ils ont dit oui. J'ai dit, maintenant, vous avez tout ce que vous avez. Parce que beaucoup de personnes au Ghana croient que pour arriver quelque part, il faut avoir une télé et un magnétoscope. Et puis, il faut avoir quoi encore? Un ventilo. Vous avez un ventilo, vous avez un frigo, vous avez magnétoscope, télévision. Ce sont les choses qui étaient loin, impossibles d'avoir. Mais aujourd'hui, c'est très commun. Je te vois avoir ta télévision, amen, et ton frigidaire, ton frigo. Donc, Dieu nous donne toutes ces choses-là. On croyait que c'était loin de nous, mais Dieu nous amène toutes ces choses-là. Est-ce que je peux avoir un amen? Et je demandais maintenant, vous avez tout ce que vous voulez. Oui, et le diable viendra te montrer beaucoup de choses que vous pouvez avoir. Et vous continuez de poursuivre ces choses-là et vous n'êtes jamais satisfait. C'est pourquoi la satisfaction ne vient pas de ce que nous avons, des choses matérielles. Des choses matérielles. Vous avez besoin de la parole de Dieu et je suis en train de prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu vous donnera la raison d'être vivant, la raison pour la vie. Alléluia! Maintenant, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. J'explique que quand on parle des eaux, ça parle de la parole de Dieu qu'on prêche. Amen. On continue. Verset 3. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Tout le monde répète après moi. Il restaure mon âme. Encore répéter. Il restaure mon âme. Il faut répéter encore une fois. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ton âme? Ton âme, c'est la partie de toi qui est définie comme ta pensée, ta volonté, tes émotions. Alléluia. Et c'est une partie très importante de l'être humain. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, votre âme n'est pas sauvée. Regardez 1 Pierre chapitre 1. En 1 Pierre chapitre 1, très vite, on va regarder. Ne soyez pas paresseux de tourner votre Bible. Certaines personnes sont très paresseux jusqu'à ce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur Bible. Hein? On était en Psaume. Vous vouliez qu'on aille en Proverbe, mais je vous ai amené loin. Ne soyez pas trop paresseux. 1 Pierre chapitre 1, verset 8 et verset 9. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir et qui vous croyez dans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9 dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Cette écriture nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes en train d'obtenir. OK? Ça, c'est le présent continuel. Le salut de vos âmes, notre âme, nos âmes. L'âme, c'est le salut. L'âme, c'est l'esprit, les émotions. Donc, c'est une partie de l'être humain qui n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi tu peux être chrétien avec une mauvaise pensée. Tu peux être un chrétien avec des émotions très confuses. Tu peux être un chrétien qui a ces émotions qui vont le diriger dans l'enfer. Tes sentiments peuvent te diriger en enfer. Bien que tu aies né de nouveau dans ton esprit, ton âme, ta volonté et tes émotions ne sont pas encore sauvées. Je me souviens, un jeune homme est venu vers moi et il a dit, « Pasteur, j'ai un problème. » Et j'ai dit, « Quel est ton problème ?» Il a dit, « Mon problème, c'est la fornication. » Il dit, « Je trouve ça difficile de ne pas forniquer. Chaque fois, j'ai besoin de forniquer. » Et il est un chrétien né de nouveau. Et je lui ai dit, « Bien, je vais te montrer un de mes livres. J'ai écrit un livre sur ça et ce livre va t'aider. » Et il a pris le livre, il a lu le livre, et après quelques mois, je l'avais vu. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, frère, comment va le problème? Il dit, ça va mieux maintenant, pasteur. Maintenant, c'est parti. Alléluia. Donc, bien qu'il était sauvé, il avait un problème avec la fornication. Donc, tu peux avoir un problème avec la fornication, bien que tu es sauvé. Tu vas faire des mauvaises choses, ta pensée, ta volonté. Donc, Et ce frère-là, son problème était avec sa volonté. Comme on dit non, certaines personnes ne peuvent pas dire non. Certaines personnes ne peuvent pas dire oui. Mais Dieu veut te fortifier afin que ta volonté soit une bonne volonté. Et ta volonté, c'est ce que tu vas faire, ce que tu vas décider de faire. Tu peux dire oui ou non pour faire ce qui est juste. Ça, c'est... Donc, Dieu est en train de travailler sur notre volonté. La Bible dit, Dieu travaille en nous pour vouloir et faire son plaisir. Ça veut dire que vous n'avez pas cette volonté, mais c'est lui qui travaille sur cette volonté-là, où tu arrives à un point où tu fais sa volonté, où ta volonté, ça, c'est pour faire sa volonté. Donc, il est en train de travailler sur ça. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1, verset 9, la Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, vos âmes sont en train d'être sauvées. Alors que vous venez à l'église, votre âme et votre âme. Dieu est en train de travailler sur votre âme. Votre âme est proche et prête à ton esprit. Ouais. C'est pourquoi des fois, on les utilise l'un pour l'autre. La Bible dit pour le salut de vos âmes. La Bible dit qu'est-ce que l'homme va avoir si il gagne le monde entier et il gagne son âme. Donc l'âme, c'est la partie invisible de l'homme. Et on parle de l'âme comme si c'est la partie de l'homme qui est invisible. Mais il y a une différence. C'est pourquoi la Bible nous enseigne en Hébreux chapitre 4, verset 12, que la Bible, la parole de l'Éternel est puissante comme deux tranchants qui arrivent à diviser l'âme et l'esprit. Bien que l'âme est très proche à l'esprit et comme si les deux sont mêmes, il y a la parole de Dieu qui peut différencier, diviser les deux. Alléluia. Dis à quelqu'un assis à côté de toi, est-ce que tu comprends ce que le pasteur est en train de dire? Alléluia. Après que tu sois né de nouveau, ton âme doit être restaurée. Et je vous montre le processus par lequel Dieu te fait passer. Premièrement, il te fait passer par les verts pâturages, et puis tu passes par des eaux paisibles, et puis il restaure ton âme, il commence à travailler sur ton âme. Il commence à travailler sur tes pensées, tes émotions. Il y a beaucoup de sœurs ici aujourd'hui. Vous pouvez m'écouter prêcher, vous regarder à la télé, peut-être vous écoutez la prédication et vous croyez dans la parole de Dieu. Mais si un homme, un non-croyant vient maintenant, un jeune homme qui n'est pas encore marié, il te dit, écoutez, je t'aime beaucoup et je suis tombé amoureux de toi en février quand j'étais venu dans cette église. Et je te regarde, peut-être tu n'es pas au courant, mais je viens ici à l'église et je veux que tu m'épouses. Et tu demandes à la personne, tu es né de nouveau? Et il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne pense pas. Tu es membre de cette église? Non. Et la personne se présente très fort. Et la personne continue d'expliquer que j'ai une carte verte des États-Unis. Et à vrai dire, je vis aux États-Unis, à Chicago. Ce frère dit Chicago. Et je vais t'amener à Chicago et je t'aime vraiment. Et il se met à genoux, il dit, je t'aime. S'il te plaît, il faut me marier. La plupart de vous, les sœurs, vous allez vous prosterner. Beaucoup vont suivre ce garçon-là. Combien de frères pensent que c'est un frère ici? Certaines sœurs ici vont suivre le frère-là. Le gars, il est non-croyant. Combien de frères pensent? Combien de sœurs croient que certaines sœurs vont suivre? Pas toi, mais quelqu'un d'autre. Bien que, vous voyez, quelqu'un m'avait dit, il dit, quand il s'agit des affaires de cœur, tu ne peux pas faire confiance dans une femme. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous êtes là, vous pouvez dire la vérité. Moi, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je vous dis ce que quelqu'un m'a dit. Il dit, quand il s'agit des affaires de cœur, ça veut dire qu'elles peuvent être spirituelles, puissantes, une fille de feu. Mais quand il s'agit de cet domaine-là, quand il s'agit de leur cœur, soit ils sont amoureux, tu ne peux pas faire confiance. Elle peut être dans la chorale. Peut-être elle joue l'instrument. Elle peut chanter n'importe quoi, n'importe quelle chanson. Mais quand il s'agit de cette affaire-là, tu ne peux pas faire confiance. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tu peux demander à la sœur à côté de toi si c'est vrai. Est-ce que pensez-vous que c'est vrai? Bien qu'elles sont des chrétiennes de nouveau, on a eu des chrétiennes dans nos églises qui se marient aux musulmans. Ils ont été dans l'église pour des années. Ils ont écouté la prédication pour des années. Et ils se marient aux musulmans. Si je ne dis pas que le musulman était une mauvaise personne, mais ça, c'est une différente foi. Et un musulman ne va pas se marier, une fille musulmane ne va pas se marier à un chrétien.
Careful.
Faites attention. Donc, vous vous rendez compte que nos cœurs ont besoin de beaucoup de réparation. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais leurs pensées ne pensent pas correctement. Et Dieu veut travailler sur vos pensées. Amen. Vos pensées ont besoin d'être corrigées et cirées. Les idées avec lesquelles vous êtes venus dans la maison de l'Éternel ne sont pas nécessairement correctes. Certains parmi vous êtes venus à l'église avec la démocratie. Vous êtes venus à l'église avec, hey, regardez, nous sommes dans l'époque démocratique. Tout le monde doit dire ce qu'il a. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, quand nous avons une étude biblique, nous avons ce qu'on appelle à contribuer ce que tu penses. Et puis, tout le monde amène son opinion, tout le monde amène ce qu'il pense. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire dans la Bible, mais c'est ce que les gens pensent. Vous venez à l'église et vous pensez que l'église doit être dirigée par une manière démocratique. Donc, où est la comité et où est le conseil général? Et tu viens dans l'église et tu dis, cet évêque-là, il a trop de puissance ici, dans l'église. Et tu commences à citer certaines choses qui sonnent très bien. Tu dis, ah, la puissance corrompt. Et la puissance, le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça, c'est les versets qu'on utilisait sur Rollins. Et vous commencez à mener toutes ces pensées dans l'église. Et l'église n'est pas dirigée par la démocratie, c'est dirigé par théocratie. Théocratie, c'est Dieu qui règne. Dieu qui règne. Cette église n'est pas dirigée par la manière démocratique. Moi, je vais aller à une église où le pasteur utilise la démocratie. D'accord. Il y a des autres églises où on fait les choses démocratiques. Mais notre église n'est pas dirigée d'une manière démocratique. Parce que je ne crois pas que la démocratie, c'est ce dont nous avons besoin. La démocratie, c'est la bonne forme de gouvernement pour les êtres humains sur cette terre. Mais pas pour l'église. Les nations comme Ghana, oui. Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et nous dirigeons nos choses différemment. Donc, tu viens à l'église, tu dis, bon, non, on espère avoir des réunions de conseil pour savoir ce qui se passe parce que ce que vous faites avec nos offrandes, ce que nous donnons à l'église, là, nous, on ne comprend pas. Bien. Malheureusement, on ne va pas avoir un membre de conseil ici. Certains parmi vous, vous venez à l'église et vous dites que, vous savez, les dîmes, et ce n'est pas nécessaire de payer la dîme ou bien les offrandes, les prémices. Et vous avez ça dans votre tête et vous devez grandir pour apprendre. C'est pourquoi la Bible dit, il restaure mon âme, il restaure ma pensée. On a besoin de la parole de Dieu de changer notre manière de penser. Hein? Nous, on donne beaucoup d'argent à l'église, là, dans cette dernière époque. Et l'église même n'a pas de banque. L'église n'a pas de projet électrification dans les endroits ruraux. Et oui, certaines personnes croient que l'église doit être impliquée dans les électrifications et pour voir de l'eau, pour voir l'électricité, pour voir tout. Mesdames et messieurs, ça ce n'est pas le boulot de l'église, c'est le boulot du ministère des eaux pour voir de l'eau à cette nation et ce n'est pas la responsabilité de l'église. Vous voyez? C'est la responsabilité de la société d'électricité du pays pour distribuer l'électricité afin que tout le monde ait l'électricité. Il ne faut pas venir nous déranger. N'est-ce pas? Nous avons été donné la responsabilité de prêcher l'évangile et d'implanter des églises. Si vous ne savez pas, je vous dis, ça c'est le travail primaire de l'église. Et vous devez ouvrir votre Bible et commencer à lire. Le fait que 110 églises sont des églises qui font des choses comme les institutions éducationnelles, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose. Je suis médecin. Je suis venu de comment on appelle de l'école de médecine. Je suis un médecin bien formé. J'ai travaillé, je connais la responsabilité d'un médecin. Maintenant, je suis dans l'église, je connais la responsabilité de l'église. Et notre responsabilité, ce n'est pas pourvoir ces facilités-là. Mais si nous avons les opportunités pour aider, nous allons aider. C'est pourquoi notre église a une école. Et c'est pourquoi notre église va commencer une clinique. Mais ce sont les choses secondaires. Notre objectif principal, c'est la chose principale. C'est l'évangile. Personne ne va le faire. Vous avez vu le ministère de l'eau, eh bien le ministère de construction et de logement. Avez-vous vu un ministère, il se lève pour dire que nous voulons encourager vous tous d'être nés de nouveau. Parce que être né de nouveau est très important, parce que ça va aider à bien consommer l'eau, parce que votre caractère va développer et vous n'allez pas gaspiller l'eau. Est-ce que vous l'avez entendu parler comme ça? Est-ce qu'ils nous aident à prêcher l'évangile? Est-ce qu'ils font des campagnes, des croisades pour nous? Mais ils veulent que l'église maintenant laisse son travail primaire de venir faire cette chose-là. Et quand il vient parler, il dit, nous voulons ces églises charismatiques nouvelles d'être relevantes à la société. Ils peuvent être relevants à la société s'ils s'impliquent dans les projets de la communauté comme de faire des hôpitaux et des toilettes publiques. Écoutez, l'église est très relevant à la société. Nous sommes toujours et tout le temps en train de prêcher. Nous gagnons les âmes. Nous sommes en train de les enseigner d'être honnêtes. Et nous sommes en train de arrêter la corruption. Vous voyez, la route qui mène chez toi. Combien de personnes n'ont pas de rue? Écoutez, la route chez toi, là, qui n'a pas été faite. L'argent est dans le compte de quelqu'un. Ils ont volé nos routes, ils ont volé l'électricité, c'est la corruption, ils ont volé tout. C'est pourquoi nous n'avons pas de routes à certains endroits, on n'a pas construit notre université. Tous les autres universités se trouvent dans les banques, les comptes de banque de certaines personnes. C'est pourquoi il y a dans nos universités, il y a 8 personnes dans une chambre. Donc quand nous prêchons, et si vous voyez quelqu'un qui est un ministre qui obéit à la loi, qui a la crainte de Dieu, on a aidé la nation de empêcher de la perte des millions de CD, des milliards de CD. On enseigne les gens comment honorer le gouvernement. Ça aide à ne pas avoir des coups d'État dans les églises, dans les pays. On prêche les gens, on prêche aux gens d'être loyal. Donc, ils ne rentrent pas dans les révolutions. Et vous pensez que je ne dois pas dire, je vais dire tout. Amen, amen, dis-moi amen. Nous enseignons les gens les moraux, les mœurs. Qu'est-ce qui tue la population en Afrique du Sud et en Zimbabwe, en Afrique de l'Est? C'est le VIH. Les gens font le rapport sexuel. Là-bas, les gens ont les rapports sexuels sans les préservatifs et ils disent que à faire le rapport sexuel avec le préservatif, c'est comme se laver sur la douche avec l'imperméable. Oui. C'est bien nous sommes en train d'éduquer les gens, mais la réalité c'est que ce que va prévenir les gens, ce qui va arrêter les gens pour faire toutes ces choses-là, ce sont une autorité plus haute qui est Dieu, qui contrôle les gens, qui les dirige, qui dit « Vivons comme cela !» On dit aux gens « Fais ceci, si les préservatifs n'est pas sur la chose. » Écoutez, laissez-moi dire, ça, ce n'est pas ça. Certaines personnes, tu leur donnes de l'argent, ils vont le faire sans le préservatif. Aujourd'hui, les étudiants à l'université sont en train de le faire. Donc, nous, dans l'église, nous sommes en train d'aider. Depuis que vous avez laissé l'école médicale, là, comment vous appelez ça? Comment? Le ministère de la Santé, là, il semble que tu ne contribues plus à la nation. Écoutez, je suis en train de contribuer à la nation. Je suis en train de contribuer. Je suis en train de contribuer. Je suis en train de contribuer. ou bien je ne contribue pas. Je contribue, nous sommes en train d'empêcher la corruption dans notre manière. Un jour, peut-être, un membre de l'Église va devenir ministère, ou bien président, ou bien ministre, ou bien un député. Peut-être. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais j'ai entendu parler des juges. Tu peux lui donner, les procureurs, les juges, les magistrats, on leur donne de la radio, une télé, et puis on change de jugement. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu dire. Mais si tu es un chrétien, procureur, un chrétien, magistrat, quand on lui donne télévision, il sait comment il va répondre. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Vous m'écoutez? Soyons honnêtes. Disons la vérité. Donc l'Église, il y a des chrétiens dans les églises. Je ne parle pas de non-croyants, mais je parle de chrétiens. Et je suis en train de vous aider à comprendre que l'œuvre de l'Église, c'est de prêcher. Hein? Ça, c'est l'œuvre de l'Église. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc il faut renouveler vos pensées. C'est pourquoi Dieu veut restaurer vos âmes. Certains parmi vous, vous pensez que non, le pasteur ne doit pas rouler dans une belle voiture. Hein?
Pourquoi est-ce que le pasteur a une voiture très... La voiture est très chère. La plupart des membres de l'église sont en train de marcher.
Il faut que votre pensée soit renouvelée. Votre pensée soit renouvelée pour comprendre l'œuvre de Dieu. Le fait que nous sommes des pasteurs ne veut pas dire que nous sommes supposés être pauvres. Moi, je ne suis pas pauvre et je n'ai pas l'intention d'être pauvre. Et je n'ai pas aussi prendre un vœu d'être pauvre. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pris le vœu d'être pauvre et je les respecte. Ce n'est pas facile de prendre un vœu pour être pauvre. Les gens qui font des pactes de pauvreté, il faut le saluer. Il faut dire, frère, je te respecte beaucoup pour tes activités. Je te respecte beaucoup, je t'honore. C'est vraiment une chose noble et honorable. Je n'ai pas de grâce de faire ce vœu, cette pacte noble. Je n'ai pas ça dans la Bible. De la même manière, les gens ont décidé de ne pas se marier. Une fois, j'étais assis par un homme qui avait décidé de ne pas se marier à cause de ses croyances religieuses. Et on était tous en train de voyager dans l'avion ensemble. Et j'étais assis à côté de lui et je lui ai dit, révérend. Alors que tu rentres à la maison maintenant, parce que c'était un vol de nuit, et je dis, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit oui. Il dit, moi, je rentre à la maison. Il dit, il n'y a personne dans la maison. Il dit oui. Il dit, non, c'est le frigo et puis les chaises. Il dit, vraiment? Et je lui ai demandé, mais comment vous sentez? Étant quelqu'un qui n'est pas marié, je ne vais jamais oublier sa réponse. Il a tourné vers moi, il a dit, c'est difficile. Quand il a dit ça, j'ai senti, oh Seigneur, quelle chose très difficile. Moi, je remercie Dieu pour mon épouse chaleureuse et juteuse qui m'attendait à la maison. Je ne pouvais pas imaginer prendre ce pacte, ce vœu-là. Donc, je ne peux pas. Donc, on vient à l'église avec toutes sortes d'idées. Et vous devez renouveler votre pensée. Certains parmi vous, vous me critiquez. Je suis votre pasteur, vous me critiquez. Vous avez la chance que Christ nous pardonne. C'est pourquoi je vous pardonne aussi. Vous me critiquez. Je vous prêche la parole. Je prie pour vous, mais et vous me payez avec les critiques. Est-ce que c'est bon? Demande à la personne à ce côté de toi, est-ce que c'est bon? Et alors que nous grandissons, et vous, on prêche, vous dites, okay, ce n'est pas bon de critiquer parce que tu vas te maudire toi-même parce que tu touches l'onction. La Bible dit de ne pas toucher quelqu'un que Dieu a oint. David n'a pas essayé de toucher Saul, bien qu'il pensait que Saul était possédé par un démon, bien que Saul était en train de tuer les pasteurs. Saul a tué beaucoup de pasteurs. Il a tué beaucoup de pasteurs. Sa dernière nuit sur cette terre, il a couché dans la maison d'une sorcière. Et cette personne-là, et David a dit, je ne vais pas le toucher. Si Dieu veut le faire sortir, ça c'est dans la main de Dieu. Moi, je ne veux rien avoir. Quand tu grandis, tu vas apprendre à fermer ta bouche. La Bible dit que je ne m'exerce pas dans les choses plus hautes. Tu vois des hommes de Dieu. Et tout le monde a un commentaire à faire. Surtout ceux qui regardent à la télé. Vous analysez des choses et puis vous discutez. Et puis vous dites, hey, aujourd'hui là, hein, il dit ça. Faites attention. Il faut grandir. Il faut grandir. Il ne faut pas être impliqué. Je me souviens, il y a des années, j'étais assis dans la congrégation. Et puis, le pasteur avait pris une offrande. Et puis, il a décidé de prendre une autre offrande. Et j'étais assis au troisième rang, je crois. La troisième rangée. Quand il a dit, il va prendre notre offrande, j'ai tourné vers la personne qui était à côté de toi, à côté de moi. Vous savez comment vous dites des choses. Hey, mais pourquoi ils font ça? Donc j'ai tourné vers la dame qui était assise à côté de toi. Et j'ai dit, ah, blablabla. Je murmurais. Et j'ai dit, mais pourquoi? Prends notre offrande. Ça, c'était moi, il y a des années. La sœur qui était assise à côté de moi, elle a été chrétienne pour longtemps. Elle était mûre. Quand j'ai fait, il m'a regardé dans une manière comme si j'étais un animal étrange qui veut se manifester dans l'église. Et immédiatement, mon cœur était frappé et je me suis rendu compte que j'ai dit quelque chose de mauvais. Immédiatement après le culte, j'ai attendu, le pasteur était libre. Je suis allé voir le pasteur et dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Il a dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Je l'ai appelé derrière l'église. Et il a dit quoi? Il a dit, pasteur, quand tu as annoncé que tu voulais prendre une deuxième offrande, j'ai parlé contre toi et je m'excuse. Il m'est regardé comme ça. Les pasteurs ne sont pas habitués aux gens qui viennent confesser leurs péchés comme ça. Donc, il m'a regardé, il était étonné. Et il a dit, il a mis sa main sur moi, il a dit, Dieu va t'utiliser. Ça fait plus de 20 ans. Il a mis sa main sur moi, il a dit, Dieu va t'utiliser. C'est tout. J'ai parlé et puis maintenant je suis libre. J'ai appris ceci et je continue à grandir.
Après le culte ce matin, certains doivent venir voir le pasteur pour venir informer certaines choses.
Ah bien, là on ne peut pas aller à la maison, il y aura une longue queue. Non, ne vous inquiétez pas. Mais on grandit et Dieu veut que nous grandissons. Amen. Il restaure mon âme. Retournons en psaume 23. Qui veut que Dieu restaure son âme? C'est pourquoi vous avez besoin des cassettes, des livres. Renouvelle vos pensées. Ça prend beaucoup de temps pour apprendre des choses. Oh, comment c'est difficile quand nous grandissons, quand nous prenons l'âge, c'est difficile à apprendre. C'est pourquoi vous voyez les plus jeunes là, ils arrivent à apprendre des choses mieux. C'est un travail, si tu veux faire, on va te demander, tu as quel âge? Si tu es au-delà de certain âge, on va te dire,
il n'y a pas de place.
Verset 3, il restaure mon âme, il me dirige près des eaux paisibles. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La personne qui dit, je ne manquerai de rien, il dit, il me conduit où? À Toronto. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu veut que ses chrétiens doivent être justes. Il veut nous diriger dans une manière de faire de bonnes choses. Ça, c'est ce que ça veut dire d'être juste, de faire ce qui est juste, d'être juste. Donc, écoutez, la plupart d'entre vous, nous sommes des charismatiques, on prie en langue, etc. Mais on ne vit pas des vies justes. Et je peux vous dire la vérité, alors que vous marchiez dans la rue de la justice, Dieu vous amènera dans l'abondance. Combien de fois, en tant qu'employeur, je vois les gens se comporter mal. Je vois comment les gens se comportent sous stress, quand ils se comportent comme il y a beaucoup de travail à faire, quand les choses ne vont pas bien, je les vois quand on ne les paye pas. Je les vois comment ils se comportent quand on ne les paye pas petit.
Toutes ces choses montrent une certaine attitude et cela t'invite à t'amener plus haut. Et tu vois que là, quand les gens sur le flot dans la justice, et Dieu ouvre les opportunités pour eux. Si j'étais un homme d'affaires, vous savez, je ne veux pas chercher les gens qui ont des diplômes, les DUT. Je vais chercher ceux qui sont honnêtes. Parce que je crois que même dans notre gouvernement, si on avait juste les gens qui étaient honnêtes, juste les gens qui sont honnêtes, okay, cela va faire une grande différence. Sans toutes ces choses, quand on parle de GDP, moi je ne comprends rien. Mais si on avait des gens qui ne volaient pas, on serait avancé. Maintenant, j'ai appris en tant qu'employé, j'emploie des gens dans l'église. Moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que la personne a appris à l'école. Ah, il y a plus de ça. C'est l'attitude de la personne. Si la personne est engagée, la personne, les vertus chrétiennes de la personne, la discipline, le travail dur, ce sont les choses qui comptent. Tout ce que tu as appris à l'école, moi je n'ai pas appris le ministère à l'école, j'ai appris la médecine. Mais je suis en train de, je suis un pasteur de réussite dans l'église et je suis pasteur des églises. Donc si j'étais un homme d'affaires, je vais chercher les gens qui sont honnêtes. Ah oui, si je peux avoir une seule personne qui est engagée. Si je laisse la personne, je sais qu'il ne va rien voler. Dieu cherche à nous diriger dans le sentier de la justice, la bonté, la sainteté. Et alors qu'il nous met sur ce sentier-là, il nous sauve de beaucoup de désastres. Écoutez, vous savez pourquoi vous allez mourir un jour? Vous allez mourir à cause du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui tue les gens. Le péché amène la mort. C'est pourquoi nous allons tous mourir. Parce que nous avons tous péché. Et c'est vrai que Christ nous a sauvés, mais nos corps, nos âmes ne sont pas encore changées. Parce que si tu es noir, quand tu es né de nouveau, tu es toujours noir. Si tu as des longs cheveux, après l'être né de nouveau, tu as toujours les longs cheveux. Si tu portes des lunettes, après être né de nouveau, tu portes les lunettes. Si tu es grand, tu es toujours grand. Si tu es mince, tu es toujours mince. Donc, bien que tu es né de nouveau, ton corps est même. Et c'est juste la même chose. Donc, Dieu essaye de nous diriger dans un sentier de justice afin que nous soyons sauvés de la conséquence du péché. À chaque fois que Jésus voulait guérir quelqu'un, les gens demandaient, qui a péché? C'est ses parents ou bien lui-même? Les gens étaient conscients du fait que c'est le péché qui amène le péché. Les gens vont mourir tôt parce qu'il y a le péché. Certains parmi nous, nous allons entrer dans nos tombeaux trop tôt à cause du péché. C'est le péché qui nous tue et Dieu essaie de nous donner l'abondance de toutes choses, y compris la bonne vie. C'est pourquoi il nous amène au sentier de la justice parce qu'il sait que le sentier du péché va nous tuer avant notre temps. La Bible dit que quand vous êtes tenté, cela ne vient pas de Dieu parce qu'après la tentation, ça met le péché. Et le péché, quand elle finit, amène la mort. La mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Si vous lisez Genèse chapitre 5, vous voyez, les gens vivaient pour longtemps, pour des années. Ceux-ci vivaient pour 900 et quelques ans. Et avez-vous demandé cette question? Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne vivons pas pour longtemps? Regardons Genèse chapitre 5, vous serez étonnés. Comment ils fêtaient leurs anniversaires. Il faut lire avec moi Genèse chapitre 5. Et puis, on va commencer à partir du verset 9. La Bible dit, Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 905 ans. Puis il mourut. Cet homme-là a eu son premier né à l'âge de 90 ans. Quand Enoch faisait son anniversaire, les gens lui demandent, tu as quel âge aujourd'hui? Il dit, ah, je suis seulement 400 ans aujourd'hui. 400 ans aujourd'hui. 500 ans aujourd'hui. Je suis 500 ans. Tout le monde est la bienvenue à mon anniversaire de 500 ans à Jowulu. Enoch a vécu plus longtemps. Tous les gens que nous avons voyés ici, ils ont vécu plus longtemps. Mais toi et moi, si tu vois quelqu'un, mais à l'âge de 70 ans, on dit il a bien fait. Hein? Il a très bien fait. Quand quelqu'un a 70 ans, à cette époque-là, quand quelqu'un a 50 ans, il est toujours un ado. Aujourd'hui, quand tu as 50 ans, tu es âgé, tu es vieux. Si tu as un enfant à l'âge de 50 ans, ça c'est la grossesse indésirée. Parce que les gens n'accouchaient pas à 50 ans. Regardez verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalil. Kénan vécu après la naissance de Mahalil. Oui. Et il dit, tous les jours de Kénan furent 910 ans. Il est mort à 910 ans. Pourquoi? Continuons. Verset 25. Métouchéla vécu après la naissance de Lémec 782 ans. Est-ce que j'ai lu la même chose que vous? Et il engendra des fils et des filles. Et il n'avait pas besoin de Viagra. Il a pu enceinte son épouse. Tous les jours de Métouchéla furent 969 ans. Regardez à Lamech. Lamech, âgé de 182 ans, engendra un fils, il donna. Certains parmi vous, vous avez 22 ans, vous essayez d'avoir des enfants. Ok. Mais il faut regarder chapitre 6. Voici l'explication. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur firent nés, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et elles prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Et alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Dieu a vu la méchanceté et Dieu a raccourci l'âge de l'homme à 120 ans. Et au Ghana ici, l'espérance de vie c'est 57-58. Vous pouvez imaginer pourquoi? À cause de péché. Je vais lire certaines écritures. 1 Chronique 10-13. Il faut noter. La Bible dit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observera point la parole et qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquaient les morts. Saul est mort à cause de ses transgressions. Proverbe 11, 19. La Bible dit, Proverbe 11 dit, et ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Une autre écriture, Ézéchiel 18. L'âme qui pêche va mourir. Voici la raison pour laquelle les gens meurent. Vous voyez, quand Papa Hagin prêchait, des fois je me demande, hey, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Parce qu'il parle de la mort. Il va te dire, quand il prêche, il a 80 et quelqu'un, il prêche, il dit, ceci-là va mourir à cet âge-là. Ceci-là est mort à cet âge-là. Ceci est mort. Il dit, cette personne va mourir. Cette personne est mort parce que l'Éternel a dit que la personne doit mourir. Récemment, il disait qu'il y avait des pasteurs qui mouraient et Dieu a dit, tu ne peux pas les changer. Il doit mourir. Il tu ne peux pas prier pour changer ça. Parce que Dieu essaye de nous donner la longue vie. Il nous dirige vers le pas de justice. Romains 5, 12. Romains
Et la Bible dit en Romains chapitre 6, verset 23, que tout ton péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Moi, je veux vivre, je ne veux pas mourir. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui vole de l'argent. Des gens qui volent de l'argent ne vivent pas pour se réjouir, pour jouir de l'argent qu'ils ont volé. Regardez les chefs des États. Quand Abacha est mort, on a entendu parler des millions, des milliards. Est-ce qu'il a pu utiliser? Est-ce qu'il pouvait même les utiliser? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, si je vous donne des milliards de dollars, vous ne pouvez pas utiliser jusqu'à la fin de votre vie. Hein? Bien qu'il semble que tu fais de mauvaises choses et puis personne ne te voit, ne sois pas trop content. La personne qui te paye, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec les hommes, mais ça a tout à voir avec Dieu. Il ne faut pas penser à l'homme, il ne faut pas penser à ton pasteur. Je ne veux pas que mon pasteur sache, je ne veux pas que quelqu'un sache, je ne veux pas que quelqu'un voie. Je ne veux pas qu'il voie, je ne veux pas. Ne t'inquiète pas de toutes ces choses-là. Moi, je suis concerné par moi. J'ai toujours dit, il y a un livre que je lis, j'ai dit, je me concerne sur ce que Dieu dit, plus que ce que les hommes disent. C'est pourquoi je suis dans ce quartier en train d'être pasteur. J'ai été appelé toutes sortes de noms par toutes sortes de personnes parce que je suis concerné par ce que Dieu pense, que ce que les gens disent. Ne sois pas trop concerné par les pensées des gens ou bien ce qu'ils disent ou bien ils disent ou pas. Deviens quelqu'un qui est concerné par ce que Dieu pense et ce qu'il dit. C'est pourquoi je ne attaque pas les églises des gens parce que Dieu me voit attaquer son église. Parce que toutes les églises, n'importe quel nom, dès que le nom, le nom de l'église a crise des dents, c'est l'église. Et tout chacun essaie de faire quelque chose. Tout le monde contribue. C'est pourquoi je ne veux pas attaquer quelqu'un d'autre qui essaie de faire son meilleur. Des fois, on attaque les uns les autres. Mais Dieu voit. Et Dieu va te récompenser. Privément ou bien, je veux suivre le pas de justice. Qui veut suivre le pas de justice avec moi? Dis à la personne à côté de toi, arrêtez toutes ces mauvaises choses à partir d'aujourd'hui. Et Dieu te bénira. Alléluia. Vous pouvez imaginer si nous avions des politiciens qui écoutaient ce que je dis et s'ils pratiquaient ce que je dis, s'ils pratiquent ce que je dis, ne pensez pas que Ghana sera un bon endroit si on avait ces personnes. Merci. Si on avait les gens comme ça, dans les endroits très importants, le Ghana sera différent. Le Ghana sera différent. Les gens sont concernés. S'il y a quelque chose, si le contrat est 10 millions, il augmente ça à 16 millions. Et puis le 6 millions, c'est pour quelque chose de privé. Quelque chose qui est 6 millions, vous faites ça à 25 millions. Et puis le 9 millions, c'est l'argent qui entre dans la poche de quelqu'un d'autre qui pouvait faire toutes les routes chez nous. Qui veut une route chez moi? Moi, jusqu'à ce qu'il vienne faire les routes qui mènent chez moi. Je vais dire ça tout le temps à la télé. Mais je vois une bénédiction venir dans la vie de quelqu'un. Père, merci pour ta grande bénédiction pour ton peuple. Alors que nous venons... À la justice, le sentier de la justice dans nos maisons, dans nos vies, notre mission sera différente parce que à cause le sentier de justice, c'est un pas de bénédiction et de longue vie. Nous recevons et nous marchons dedans au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Visitez dagiwamiens.org aujourd'hui pour plus de messages audio et vidéo. Informations sur les événements à venir et beaucoup plus. Assurez-vous de vous abonner à ce podcast pour recevoir de nouveaux messages chaque semaine. Et souvenez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour.